Moi, personnellement, si j'avais dû concevoir ce genre de choses, j'aurais vu une habitation, tu vois, de plein pied, avec de grands parterres très aérés, un peu à la Frank Lloyd, typiquement dans l'esprit des habitations japonaises, parce que ces gens-là, malgré tous leurs défauts, avaient compris beaucoup de choses.
C'est arrivé près de chez vous.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur le 105.9 de Radio Prévert. Aujourd'hui, nous recevons Lydia Leleux, qui est la vice-présidente de l'association Cinémarais. Bonjour Lydia Leleux.
Bonjour et merci de cette invitation. C'est un vrai plaisir et puis c'est tellement inédit d'entrer dans un collège, finalement on va dire dans la vie courante, et puis surtout à la radio du collège, que je suis ravie.
Merci. Eh bien, Lydia Leleux est présente dans le studio puisqu'elle va nous présenter le festival Doc en Voyage, qu'elle co-organise avec les autres membres de l'association dans le cadre du mois international du documentaire. Ça consiste en une quinzaine de projections documentaires du 13 au 22 novembre dans le bassin de Chagny, parfois en présence de certains des réalisateurs. Alors quand on regarde la programmation, il y a bien un point commun, c'est le documentaire, mais vous me dites si je me trompe, mais il y a une grande variété autour des thématiques. Hein, ça peut aller du désir d'enfance chez une jeune fille autiste à la récolte du muguet sauvage dans un village de Bresse, en passant par les mariages entre frères et sœurs dans la vallée du Zanskar dans le nord de l'Inde. C'est vraiment très varié. Il y a même un documentaire sur un monument du cinéma français, les Tontons Flingueurs. Donc quand je vois une telle programmation, j'aimerais savoir quel esprit vous anime.
Alors c'est la cinquième année qu'on pratique le mois du film documentaire. Auparavant, ce n'était qu'à Chagny. Ne pouvant plus disposer de la salle de cinéma, un peu dépité, on s'est dit, on va chercher ailleurs, autour de Chagny. Et puis finalement, l'affaire s'est révélée vraiment très intéressante, avec un accueil formidable dans les communes, des lieux inédits aussi, hein, comme ici, des lieux qu'on n'imaginait pas, puisqu'on finit par exemple nos projections dans une poterie. Et alors, initialement, on piochait dans un catalogue de films du terroir. C'était intéressant, on pouvait facilement faire venir les réalisateurs. Et puis petit à petit, l'ambition nous a pris et on a mêlé le terroir, le national, l'international, pour proposer. Alors l'année dernière, on a projeté un documentaire animé. Je vais encore dire que c'est inédit, mais c'était vraiment même étonnant pour nous en le trouvant. Alors on souhaite déjà dépoussiérer un peu l'idée que les gens du documentaire... Pas dépoussiérer le documentaire, parce que c'est d'une variété vraiment infinie. Et varier les sujets, les approches, les bandes-sons, les images, les intentions, croiser des regards, voilà, aborder toutes sortes de sujets. Et je dois dire que cette année, je pense que c'est notre programmation la plus réussie, parce que ça prend. On regarde notre programme nous-mêmes et on se dit, bah tiens, c'est vraiment ce qu'on voulait, varier. On peut s'amuser, on peut réfléchir, on peut rire. Il y a du noir et blanc, il y a de la couleur, il y a de la musique. Tout ce qu'il faut pour que les gens viennent, restent, un verre à la main, échangent, se retrouvent et sont soit contents de se divertir, mais aussi contents d'aborder des sujets qui, à l'issue desquels ils se sentent avoir réfléchi, pouvoir encore réfléchir.
Parce qu'il y a un moment d'échange après chaque projection.
Alors, lorsque le réalisateur vient, on met toujours en deuxième projection, en dernier, pour qu'il puisse écouter la salle, répondre. Mais même dans l'après-midi, on boit un verre parce que les personnes n'osent pas toujours intervenir. Donc, en petit groupe, ça se passe beaucoup mieux. Et si le réalisateur n'est pas là, on fait venir un responsable d'association ou nous-mêmes, on se renseigne sur le sujet. Et on tente aussi un débat, mais quand les réalisateurs sont là, c'est plus facile.
Et parmi les réalisateurs, il y a Gilbert Leroux, je vois, La Bresse autour du muguet.
Oui.
Une drôle d'histoire. Apparemment, il y a un muguet sauvage en Bresse.
C'est tout à fait étonnant parce que, quand je relis le résumé, on a l'impression que c'est le 1er mai que le village se mobilise, mais c'est des mois avant, tout le village se mobilise, chacun connaissant son coin, le surveillant, il faut calculer pour aller jusqu'à Rungis. Enfin, c'est une histoire un peu à rebours puisqu'on, ça doit démarrer dans l'hiver ou en janvier, je ne sais plus. Et on voit l'organisation et on sait qu'à la fin, il y aura la vente. Et est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être une année bénéfique? On a l'impression parfois que dans les coffres, il y a les truffes. Enfin, ça, on est dans l'échange de produits rares et qui a un coût. C'est très, très, très bien fait, intéressant. Le terroir dans ce qu'il a de meilleur, je trouve.
Donc ça, c'est le samedi 14 à 16h, à la salle des fêtes de Ruy. Et si on veut rester dans quelque chose de local, je vois que le 16 à Remigny, à la salle des fêtes, en fin de soirée, il y a un documentaire sur les derniers jours d'une charcuterie à Beaune. C'est bien ça.
Oui, oui, oui. Alors, le réalisateur Rémi Bateau, c'est celui qui fait aussi l'ouverture avec Super 8, mon amour. Et il était venu l'année dernière. Alors, en dehors d'être un showman accompli, parce que vraiment, il a besoin ni rien ni de personne pour parler de son film, il nous a régalé parce que, alors, fils de charcutier lui-même, ayant une sœur, Monsieur Bateau, grand charcutier très connu à Beaune, était passionné de Super 8. Et finalement, les deux enfants n'ont pas repris la charcuterie. Un est devenu documentariste et l'autre maquilleuse de cinéma. Donc, c'était une soirée vraiment très intéressante autour du premier film de la trilogie charcutière. On a découvert les parents sur le film, à l'écran, mais aussi dans la salle. On avait invité beaucoup de charcutiers du coin. On a mangé du jambon persillé. C'était absolument formidable. Une soirée... Je vais le dire ici, on est obligé de mettre les gens dehors parce que personne ne trouvait de bonne raison de s'en aller tellement l'ambiance était formidable. Donc on a souhaité le faire revenir pour la fête, enfin l'hommage au Super 8 et pour le dernier film de sa trilogie. C'est à Remigny lundi soir. Alors Rémi Bateau voulait être là mais il doit repartir à Paris. Mais ses parents seront parmi les spectateurs et puis ils se verront sûrement avec une petite larme parce que il y a la mélancolie des gens qui arrêtent un métier qu'ils ont fait pendant plus de 40 ans. C'est très intéressant. Puis Rémi Bateau aime la musique, la comédie musicale, alors que ses films s'en ressentent. C'est drôle, c'est très, très soigné. Je ne veux pas en dire trop, j'espère juste donner envie. Il faut avoir gardé un peu de surprise.
Très bien. Alors, vous nous parlez de musique. Justement, on va proposer une pause musicale, puisque justement, il y a des documentaires qui est consacré à un monstre de la scène rock des années 70, Sixto Rodriguez, qui avait notamment été connu par ce morceau célèbre Sugarman. On l'écoute maintenant.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry.
C'était Sugarman, interprété par Sixto Rodriguez sur les ondes de Radio Prévert. Nous sommes en présence de Lydia Lelux qui vient nous présenter la programmation du festival Doc en Voyage qui se déroulera du 13 au 22 novembre prochain. Et nous poursuivons avec un nouveau documentaire qu'elle a proposé dans la programmation, c'est-à-dire L'Alice. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que ça se passe aussi dans la région,
oui,
dans le Morvan.
Vraiment au cœur du Morvan. L'Alice, je l'ai découvert il y a quelques années, sans en attendre grand-chose, justement à la poterie. Donc on a tenu à ce qu'il soit projeté à la poterie. Et Anne Commode, la réalisatrice, connaît bien la poterie, donc elle était enchantée d'y venir.
Elle sera là.
L'Alice, c'est une figure, des gens dont on dit maintenant il n'en existe plus des comme ça, mais j'espère que si. Donc on la voit dans sa ferme, seule, beaucoup travailler, accueillir garder avec elle un homme que ses parents avaient accueilli, qui venait de l'assistance publique, qui est très diminué, qui lui donne plus de travail qu'il ne l'aide. Donc on l'entend rouspéter, on l'entend râler, et en même temps, elle essaie de le soutenir de toutes ses forces, et quand elle va s'occuper de ses animaux, on fond complètement parce qu'elle est... Elle a un rapport avec ses bêtes, mais incroyable. Alors, elle est très en confiance, je pense, avec la réalisatrice. Donc, elle parle, et tout doucement, mais petit à petit, elle finit par évoquer les personnalités qui passent la voir, parce qu'elle semble assez connue. Je me demande même si Georges Brassens n'est pas passé la voir un jour. Et la manière dont elle a perdu son mari, manière un peu dramatique, puis assez jeune. Donc on a une peinture par petites touches d'une vie de labeur, une vie où il faut trouver ses propres ressources, y compris morales. Et moi je trouve ce film absolument magnifique. Alors c'est pas un film qui passe au cinéma, peut-être qu'on peut trouver que l'image n'est pas léchée, les couleurs, le son, mais c'est complètement émouvant, c'est vraiment et très très intéressant parce que c'est un monde, je pense, qui disparaît, de toute façon. Mais on y est, on est dans sa cuisine, on la voit sortir le Ricard ou le Pernod, je ne sais plus, avec toutes les personnes qui passent et... Bon, c'est étonnant, mais c'est très, très prenant. Et vraiment, c'est un film qu'on garde, je pense. Et les personnes qui l'ont vu, si on dit l'Alice, ah, l'Alice, et on voit un sourire sur leur visage.
Donc ça nous donne envie d'aller le voir. Oui. Et si vous le souhaitez également, sachez que ça se passera le dimanche 22 dans la poterie de Sampigny-les-Maranges. Voilà. On continue maintenant, on va ouvrir l'horizon. Après, c'est intéresser à des documentaires plutôt locaux. On va plutôt ouvrir sur le national avec ce que je disais tout à l'heure, un monument du cinéma français. Il y a un documentaire consacré en fait aux coulisses de la réalisation du film Les Tontons Flingueurs. C'est réalisé par Gilles Mimouni. Est-ce que vous pourriez nous dire plus à ce propos?
Oui, alors ce film fait partie d'une collection dont j'ai oublié le nom, qui était proposée sur FR3 ou la 5, je ne sais plus, où on peut voir aussi décrypter Jules et Jim, quelques grands films du patrimoine français, disons. Donc ces tontons flingueurs, bon, tout le monde les connaît, on connaît les répliques par cœur. D'ailleurs, dans le film, on a l'occasion d'en réentendre certaines. C'est un peu une genèse du film et ce que moi, personnellement, j'ai beaucoup accepté, beaucoup apprécié, c'est la présence qui revient à l'écran de Georges Lautner, le réalisateur, et qui est une personne très attachante, très sincère, très enjouée aussi, et qui parle de sa bande de copains qui l'auraient suivi, je pense, les yeux fermés dans n'importe quel navet, si Lautner était capable de faire des navets. Une ambiance un peu datée, on va dire, quand même, parce que ce qu'on entend maintenant du cinéma... C'est plutôt les paillettes, les lancements, la promo, même si le film est très beau, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus commercial, devant rapporter de l'argent, alors que bon, les Tontons Flingueurs, je crois que c'était vraiment un film pour se faire plaisir et qui vient d'une époque, donc l'époque est un peu décryptée, le pompidolisme, ce qu'il faisait, ce qui ne se faisait pas, ce qu'on pouvait dire. Bon, là non plus, je ne veux pas en dire trop, mais c'est très intéressant. À la fois, on a le plaisir de revoir les acteurs à l'écran, mais c'est quand même un décryptage qui, peut-être, qui nous aide, quand on le reverra, à encore mieux l'apprécier.
Et ça sera le jeudi 19 à l'hôpital de Chagny, voilà. À 20h, juste avant la projection d'un autre documentaire, Les Ambassadeurs. Mais je voulais parler quand même d'autre chose. C'est un ovni réalisé par Luc Moulet, La Terre de la Folie. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter? Parce que quand on regarde,
oui.
Ça m'a l'air assez étrange. Ça se base sur des faits divers. Et finalement, lui, il arrive à monter ça en épingle pour faire croire qu'il y a un tueur en série dans une région.
Ou plusieurs.
Ou plusieurs tueurs en série.
Alors, Luc Moulet, c'est un... Comment... je ne trouve pas le mot, un résistant ou de la Nouvelle Vague, quelqu'un qui était proche des cinéastes de la Nouvelle Vague comme Truffaut, Chabrol, mais qui est connu par les grands cinéphiles, mais enfin qui n'est pas passé à la postérité. Et donc ce monsieur se présente sur l'écran et attire notre attention sur un triangle ou un quadrilatère, je ne sais plus, dans les Alpes, qui est sa région d'origine. Ou comme si une fatalité pouvait peser, comme si les secrets familiaux, les tares familiales, les vengeances avaient pu tracer une sorte de carte du règlement de compte, du meurtre. Alors moi, je l'ai vu dans un petit festival, parce qu'il est très apprécié des gens qui... C'était à Cinépause, à Donzy, qui va chercher dans les archives souvent et où on peut voir des choses qu'on voit pas si facilement. Donc on était très content de le programmer, mais c'est un vrai film de cinéma celui-là. Il est très très soigné avec des moyens quand même, un peu, je pense, du matériel. Mais c'est une sorte de d'objet, voilà, non identifié, parce que on reste, alors on sourit, mais on se demande si on a raison de sourire, parce qu'il s'agit quand même de crime. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Après, il faut venir vérifier sur pièce, mais en même temps, ça a l'air très sérieux. Alors on se dit, mince, il s'en passe des choses dans les Alpes. On a un peu promené, mais ça, c'est un plaisir quand c'est bien fait. C'est un vrai plaisir. Moi, j'ai tenu à le programmer. Et vraiment, j'avais apprécié.
Et vous le projetez le samedi 21, donc à 20h30, mais juste après un souper.
Voilà, un petit, voilà. Petit, j'ai mis petit devant parce que bon, ce ne sera pas ni deux ni trois étoiles. Un petit souper qu'on organise dans une salle de la poterie pour que les personnes qui viennent à 16h30 puissent rester sur place, en dehors de voir le magasin de la poterie qui est absolument merveilleux. C'est un lieu magique, cette poterie. Donc j'espère que des gens, à nouveau, vont découvrir le dernier week-end de projection, ce lieu dans lequel on revient quand on y est allé une fois.
Voilà, parce qu'à 16h30, vous projetez un autre documentaire qui est consacré au montage d'un ballet par des ados d'une pièce où il y a Pina Bausch.
Oui, je vais en dire un mot si je peux. Donc ça aussi, c'est un film qui est passé au cinéma, que j'avais vu. Je crois que c'est dans les années 70 que Pina Bausch avait monté ce ballet qui s'appelait Off Contact, j'ai oublié. Et elle l'avait monté avec des personnes âgées, donc c'est un peu la séduction autour de la danse, des personnes âgées qui n'étaient pas professionnelles. Et donc Pina Bausch, au moment où ce projet a vu le jour, était très malade. Ce sont ces danseuses de la première heure qui ont voulu refaire cette pièce magistrale de son répertoire, mais avec des adolescents. Donc on commence en voyant le choix des adolescents qui danseront. Qui danseront sur scène devant un public. On écoute leurs aspirations, donc c'est en allemand, hein, sous-titré. On écoute leur vie, on voit, on essaie de deviner ceux qui auront le talent de rester. Et c'est touchant parce que ce sont vraiment des adolescents qui s'expriment sur des grands sujets aussi. Et on voit et on revoit les mêmes scènes avec la progression, le talent qui émerge, et ça se termine sur évidemment la représentation. Moi, j'ai vraiment énormément aimé ce film. Il a tout pour lui.
Voilà. Très bien. Alors il y a un autre documentaire qui m'interpelle. Ça se passe plutôt en début de festival. C'est le samedi 14, La vie rêvée d'Amanda. Ça raconte le désir d'enfant chez une jeune autiste, et il s'est filmé par sa mère, c'est ça,
voilà,
Gilles Emery,
voilà.
Qui sera présente.
Alors oui, je c'est en téléphonant à Gilles Emery, en prenant contact avec elle, que j'ai appris que c'était la mère d'Amanda. Chose qu'on devine parce qu'elles sont en présence, et puis il y a la sœur d'Amanda aussi, mais sinon elle a fait un vrai documentaire avec les questions, les difficultés, les moments de doute, et puis l'institution où Amanda est durant la semaine. Et c'est, ben, on est un peu dérangé. Alors Amanda, la sœur d'Amanda est enceinte, donc Amanda, mais ne voit pas pourquoi elle ne le serait pas. Donc la sœur et la mère sont vraiment, Amanda a de la chance. Quand on voit les autres jeunes adultes autistes dans l'institution, ils sont abandonnés pour la plupart. Alors qu'elle, elle s'exprime, on sent qu'elle a été portée à bout de bras avec beaucoup d'amour. C'est pas toujours facile, on la voit dans son institution avec d'autres qui sont des personnes handicapées. Mais je crois que c'est vraiment, bon, c'est filmé avec beaucoup de délicatesse, et puis je crois qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Oui, c'est pas toujours riant, mais c'est la vie, ça existe. Et je pense que c'est important de se confronter aussi à ces films-là, où il y a aussi des rires et des choses attendrissantes. Mais je pense que ce film avait tout à fait sa place dans Les deux camps baladent. Un beau sujet.
Très bien. Ben, Lydia Dulux, là, nous avons commencé par l'aspect local, nous avons ouvert sur le national, nous allons ouvrir sur l'international, mais avant tout, nous allons écouter un morceau de musique qui nous vient de l'Inde, puisqu'il y a deux films qui nous parlent de ce pays.
Bien.
Thank you.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Prévert sur 105.9 à l'instant, à Musique venue de l'Inde, puisque nous sommes en présence de Lydia Lelux, la vice-présidente de l'association Ciné Marais à Chagny, où elle nous présente la programmation du festival Ciné en Doc en balade. Alors je dis Doc en voyage depuis le début de l'émission. Alors je disais tout à l'heure, oui, que dans la programmation, il y avait des films qui étaient tournés du côté de l'Inde. Il y en a deux. Le Zanskar, réalisé par Gilbert Leroux, et puis Le Cercle de Rémy Briand.
Alors tout d'abord, peut-être qu'un jour on fera des docs en voyage, mais il faudra aller plus loin que le canton de Chagny. Mais qui sait ? Gilbert Leroux, c'est nous qui l'avons sollicité pour La Bresse au temps du Muguet, et pour apporter un peu de touche personnelle dans la programmation, on lui a demandé de choisir lui-même le deuxième film de l'après-midi.
Le samedi 14.
Voilà, le samedi 14 à 17h, ce sera Le Zanskar.
À Rouilly.
À Rouilly, oui. Donc, il a choisi un film court de 27 minutes et il a beaucoup voyagé. Sur le journal, il disait l'autre jour que finalement, il a beaucoup voyagé, il a filmé des endroits où il retournait, où il connaissait les habitants, mais que finalement, en s'installant en Bresse, il trouve que c'est presque aussi exotique. Il y a autant de choses à dire que sur l'étranger, mais il garde beaucoup d'excellents souvenirs de ses recherches documentaires dans le monde. J'ai oublié de mentionner dans La Bresse au temps du Muguet que Violaine Labrusse, la monteuse, est aussi réalisatrice. Bon, j'ai solidarité féminine oblige, il faut que je le rappelle parce que je ne suis pas contente de cet oubli. Pour le Cercle aussi est un court-métrage court.
Vous le programmez
Un documentaire court.
Vous le programmez à Ebati, donc c'est un peu plus tard, c'est le mercredi 18, à la salle des fêtes.
À Ebati, donc... comme le dit le petit résumé, c'est un très vieil homme qui a accumulé tous les livres qu'il a pu trouver toute sa vie, mais des livres étrangers, des livres des livres très anciens et des merveilles incroyables qu'il a entassés chez lui, stockés en faisant venir les étudiants qui en avaient besoin, mais heureusement il a rencontré ou une ONG, enfin une association s'intéressant à la vie locale de son lieu, de son village, est tombé sur ce trésor, a trouvé que vraiment il fallait qu'il vive, qu'il soit exploité, qu'on le montre, et tous les projets étant très longs, avec beaucoup de volonté, a fini par faire émerger une vraie bibliothèque. Donc on assiste après la présentation, après la poussière dans des locaux, les cartons, à la mise en place dans un très beau lieu et l'inauguration de cet endroit qui, je pense, a été quelque chose d'extraordinaire pour ce vieux monsieur qui atteignait son but de manière inespérée. Et puis tous ceux qui peuvent en profiter. D'ailleurs, à l'inauguration, il y avait énormément de monde. Je crois que ça clôt l'image je crois que ça clôt le film. J'ai un petit peu oublié, mais je crois que c'était quelque chose, un vrai travail qui a été accompli.
En tout cas, il y a une programmation qui est foisonnante. On n'a pas eu le temps de voir l'ensemble de la programmation. On va vous inviter à aller voir ça plus près. On donnera les coordonnées à la fin de l'émission et puis on donnera des liens internet sur le site de la radio. Mais en tout cas, en dehors de ce festival, vous programmez d'autres choses dans le courant de l'année. Est-ce que vous pourriez nous dire quoi exactement prochainement ?
Alors, nous faisons à Chaudenay, à la salle des fêtes, chaque mois, nous projetons un film dans le cadre de Ciné Village, donc cinéma itinérant. Nous avons projeté il y a 2 jours La Loi du marché et le prochain film sera Voyage en Chine. Donc toujours des films de qualité, pas forcément toujours des sujets faciles, mais la fréquentation de Ciné Village montre que le choix convient au public. Le premier film, c'était Floride, avec Jean Rochefort qui avait fait beaucoup d'entrées pour un petit village. Donc nous faisons ça toute l'année. Nous participons également au jour le plus court, qui, autour de l'équinoxe d'hiver, l'agence du court-métrage propose une projection Oui, j'ai oublié de dire que c'était en entrée libre, les docks en balade.
Bon, on va le redire tout à l'heure.
Et le jour du... Bon, avec une panière, évidemment, ou un chapeau. Mais le jour le plus court, c'est le même type de travail. On sélectionne des courts-métrages. La première fois, on avait passé 4 heures de court-métrage. On songe à 5 cette année, mais donc de toutes sortes, animés, drôles, plus sérieux, qui s'enchaînent avec l'entrée libre, non seulement au niveau du coût, mais aussi on entre et on sort quand on veut. Et donc, il faut trouver des lieux pour ces événements. Ce sera à la brasserie, la nouvelle brasserie de Chagny, la BAB. Enfin, en tout cas, elle s'appelle l'Audacieuse, cette brasserie. Une brasserie au pays du vin. Donc voilà, c'est là son audace. Une bière bio qui est excellente. En tout cas, c'est un lieu très chaleureux dans lequel, mais je pense qu'on aura l'occasion de pouvoir repasser cette petite annonce.
Sans problème.
Merci.
Donc si on revient à Donc en balade, si je souhaite m'y rendre, comment est-ce que je fais pour me rendre au courant des programmations jour le jour ? J'ai vu qu'il y avait une page Facebook.
Il y a une page Facebook.
Cinémarais.
Voilà, il y a une page Facebook. Moi, je recommande aux gens aussi que j'aimerais bien voir arriver chez nous, mais d'aller sur le mois du documentaire. Voilà, il y a un site internet et il y a toutes les programmations nationales et même internationales. Donc, à côté de chez soi, on peut trouver une ou 5 ou 16, comme pour nous, beaucoup de documentaires, tous dans les mêmes conditions, en entrée libre, avec les réalisateurs quand c'est possible. Voilà, c'est une vraie manifestation qui, notre public est en augmentation. Je pense que le documentaire, avec les belles choses qu'on peut voir dans les formats de la télévision aussi. D'ailleurs, certains qu'on projette sont faits. Ceux de 52 minutes, c'est vraiment le format de télévision.
Oui. Et donc, il y a de plus en plus de monde. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de réserver.
Non.
Sauf le samedi 21 pour le souper dont nous parlons tout à l'heure.
Voilà, parce qu'on n'a que 50 places.
Et donc, si je souhaite participer au souper, c'est 8 euros. Il faut réserver. Il y a un numéro de téléphone.
Oui,
c'est le 03 85 91 12 99. Et il faut s'inscrire avant le 18 novembre. De toute façon, on donnera toutes ces coordonnées sur la page Facebook de la radio et également sur le site internet de la radio, radioprévert.com. Et puis, il nous reste à vous remercier, Lydia Leleux, et puis peut-être une prochaine fois pour une nouvelle présentation du mois du documentaire ou d'autres festivals.
Alors j'espère avoir fait passer l'idée que ce qui nous anime, c'est vraiment la rencontre, le débat, la convivialité. C'est pour tout le monde. Merci beaucoup.
Je n'en doute pas. Merci aussi. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Bonne écoute par la suite sur Radio Prévert.